Bonjour à tous. Au sommaire de cette édition, le maintien des agents fédéraux à Portland, Oregon, décision de Donald Trump. La mise en service ce matin de la première centrale nucléaire du monde arabe aux Émirats Arabes Unis. Au Zimbabwe, l'opposition réprimée et couvre-feu à Harare. Enfin, l'ouverture aujourd'hui du Festival de Salzbourg, édition maintenue malgré la pandémie. Salzbourg a 100 ans. Le président américain envisage de signer dans les heures qui viennent un décret qui interdirait l'application chinoise TikTok. Le conditionnel s'impose. En a-t-il seulement les moyens? TikTok pourrait faire l'objet de lourdes mesures fiscales. Moyennant quoi, cette application inquiète les républicains 3 mois des élections car à leurs yeux, elle pourrait brouiller le contenu des discours politiques. Des républicains qui peuvent compter en revanche sur les surenchères sécuritaires, autoritaires de Donald Trump. Bonjour Cosima Mezidi Alem.
Bonjour Mathieu.
La dernière en date, maintenir les agents fédéraux à Portland.
Ça fait plusieurs semaines que des manifestations se déroulent à Portland, dans l'Oregon, contre le racisme et les violences policières. Depuis la mort de George Floyd, cet homme noir de 46 ans, décédé lors d'un contrôle de police en mai, l'envoi d'agents fédéraux début juillet n'a fait que renforcer les manifestations. Sur les réseaux sociaux, on peut voir de nombreuses vidéos d'officiers lancer des grenades assourdissantes et du gaz poivre ou encore sortir de voitures banalisées pour interpeller des manifestants sans raison apparente. Mercredi, un accord avait été trouvé, le retrait progressif des fédéraux, à condition que la police locale calme les affrontements. Mais volte-face de Donald Trump sur son réseau social favori Twitter, les agents fédéraux resteront à Portland jusqu'à ce que, je cite, la police locale la débarrasse des anarchistes et des agitateurs. Une rhétorique de campagne destinée à le placer en homme de droit et d'ordre pour les présidentielles de novembre, mais pour les démocrates, cette stratégie donne plutôt à Donald Trump à la traîne en ce moment dans les sondages, l'image d'un président qui se voudrait inquiet pour sa population et attaché au maintien de l'ordre.
Merci à vous Cosima Mezidi Alem. Des élections législatives anticipées en Irak, programmées le 6 juin prochain, annonce hier soir du Premier ministre Mustafa Al-Kazimi qui prétend ainsi anéantir une révolte populaire contre une classe politique on ne peut plus corrompue. En milieu de matinée, non sans fierté, le cher Mohamed Ben Rached Al Maktoum, Premier ministre des Émirats et souverain de Dubaï, annonçait la mise en service de la première centrale nucléaire du monde arabe. Bonjour Bertrand Galichet.
Bonjour.
Bertrand, une maîtrise technologique mais aussi un atout politique.
Oui, une mise en service qualifiée d'historique par le représentant des Émirats à l'Agence internationale de l'énergie atomique et qui marque un tournant dans l'approvisionnement énergétique du monde arabe. Après 12 ans de travaux et de nombreux reports, le réacteur mis en route ce matin est le premier des 4 qui doivent fonctionner à la centrale de Baraka dans le nord-ouest du pays. À terme, ces installations nucléaires sont prévues pour fournir 5600 mégawatts, soit le quart des besoins en électricité des Émirats, un État fédéral qui compte au total 9 300 000 habitants, dont 80% d'expatriés. La consommation électrique y augmente rapidement, surtout à cause de la climatisation généralisée pendant les étés caniculaires. Cette centrale est implantée dans un pays gorgé de pétrole et de gaz, le 4e producteur de l'OPEP, mais qui veut diversifier ses sources d'énergie. La mise en service du réacteur n'a rien d'anodin sur le plan politique et géostratégique. Il est situé sur la côte à moins de 250 km à vol d'oiseau de l'Iran, de l'autre côté du Golfe, donc vulnérable. Or, les relations entre les Émirats alliés des États-Unis et l'Iran sont extrêmement tendues. Le Qatar, voisin des Émirats, voit dans le lancement de cette centrale une menace pour la paix régionale. D'autres pays de la région ont des projets de nucléaire civil, notamment l'Arabie Saoudite et l'Égypte.
Merci à vous Bertrand Galichet. Hier, les rues d'Harare étaient désertes, ou plutôt désertées par la population, apeurées par les multiples patrouilles de la police et de l'armée, malgré ces manœuvres d'intimidation. L'opposition avait appelé à manifester, et manifestation il y eut jusqu'aux arrestations d'opposants, parmi lesquels l'écrivaine Titi Dangarimba. Bonjour Nabila Hamel.
Bonjour.
Nabila, au Zimbabwe, le pouvoir s'est manifeste échoué à relancer une économie moribonde depuis des décennies, ainsi qu'à rompre avec une corruption endémique.
Et c'est contre cette corruption que des journalistes, des syndicalistes, des membres de l'opposition et même d'anciens de la branche jeune du parti au pouvoir, la ZANU-PF, avaient appelé à manifester hier. Mais avant même la date de la manifestation, un journaliste lanceur d'alerte, Opawel Shin Ono, a été mis en prison. Il avait révélé une affaire de corruption dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus, qui a d'ailleurs conduit au limogeage en début juillet du ministre de la Santé. Le président du parti Transformé le Zimbabwe, un parti d'opposition, a également été placé en détention pour avoir appelé à cette manifestation contre la corruption. Le Zimbabwe est englué depuis déjà 20 ans, depuis l'ère Mugabe, dans une crise économique, une inflation à 300%, une pénurie de produits de première nécessité, une multiplication par 4 des prix de l'électricité. Si les phénomènes climatiques extrêmes de type sécheresse ou inondations catastrophiques ont aggravé la situation ces dernières années, la crise sanitaire actuelle s'y est ajoutée. À ce jour, ce pays d'Afrique australe compte 2800 cas confirmés de nouveaux coronavirus, dont 41 décès. Le confinement en place pour tenter de ralentir la propagation de l'épidémie a mis beaucoup de personnes au chômage dans les zones urbaines, tandis que la faim dans les zones rurales s'accélère. Il faut savoir que les paysans de subsistance, comme on les appelle, représentent les 3/4 de la population zimbabwéenne et fournissent l'essentiel de la nourriture du pays. Or, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial, alertait hier sur les 60% de la population zimbabwéenne qui se retrouveront en situation d'insécurité alimentaire d'ici la fin de l'année.
Merci à vous, Nabila Hamel. C'est une cellule créée il y a quelques mois pour lutter contre l'agribashing, ou plus précisément, les atteintes au monde agricole dont les agriculteurs se plaignent régulièrement, vol, dégradation ou intrusion dans les exploitations de militants antispécistes. La cellule Déméter a été créée par la gendarmerie en 2019 sous l'égide du ministère de l'Intérieur, de l'Agriculture et des deux syndicats majoritaires chez les agriculteurs, la FNSEA et les jeunes agriculteurs. Une cellule qui, selon l'association L214, a pour but d'intimider les militants de la cause animale et plus généralement les partisans d'une agriculture affranchie des lobbies. L214 a donc décidé hier de porter plainte et de demander la dissolution de cette cellule. Elle est soutenue à leur choix par la Ligue des droits de l'homme.
Une façon de mettre sous surveillance les associations de protection animale et plus largement les associations écologistes. C'est ce que dénonce L214 dans sa requête en référé liberté déposée hier au tribunal administratif de Paris. Quelques mois auparavant, c'était deux autres associations, Polynis et Génération Future, qui avaient déposé un recours contre cette même cellule, une cellule de renseignement censée éviter les actes dirigés contre les exploitations agricoles, des actes qui se multiplieraient selon les agriculteurs. Mais cette cellule pratique un mélange des genres douteux en déléguant à des personnes privées, la FNSEA et les jeunes agriculteurs, des compétences de police administrative. Pour Lionel Brun-Valicon, du comité central de la Ligue des droits de l'homme, il y a risque d'atteinte à la liberté d'expression et même à la liberté d'information.
On assimile à des infractions qui sont regroupées sous un terme qui reste très flou d'agribashing, qui relève en fait de prise de position politique et du fait qu'elle puisse être étayée par des travaux d'information. Je pense que tout le monde a en tête les travaux d'L214 des dernières années qui ont permis de mettre au jour des pratiques condamnables dans les abattoirs notamment. Ce qu'on perçoit, c'est qu'il y a effectivement une forme d'utilisation des moyens de police de plus en plus avérés pour empêcher ou gêner des activités qui relèvent du militantisme ou simplement de l'organisation associative, en leur reprochant des infractions.
Autre critique faite à cette cellule Déméter, la présence de personnes issues du parquet, ce qui porte atteinte à la garantie du secret de l'enquête, selon les associations, qui disent constater une pression et une intimidation croissante à leur encontre.
Ouverture aujourd'hui en Autriche du Festival de Salzbourg, édition 2020, remanié en raison de la pandémie, mais le festival compte bien célébrer son centenaire. C'est un reportage de notre correspondante en Autriche, Isorias.
Pour les organisateurs, il était impensable de ne pas célébrer le 100e anniversaire de ce festival de référence. Mais coronavirus oblige, ils ont dû s'adapter. Initialement, 200 performances étaient prévues. Ce sera finalement 53 concerts, 29 représentations de théâtre et 12 d'opéras, dont le Così fan tutte de Mozart, mis en scène par l'allemand Christoph Loy. Elga Rabelstadler, la présidente du festival.
Je n'ai jamais douté que nous pourrions présenter quelque chose, même symbolique, en cette année anniversaire du festival. Notre stratégie a toujours été claire. Nous avons raccourci le festival et nous accueillerons moitié moins de spectateurs lors des représentations.
À cela s'ajoute un protocole sanitaire très strict, explique le directeur artistique Markus Interhäuser, interrogé par le Salzburger Nachrichten.
Nous avons décidé de ne pas faire d'entracte car ils sont difficiles à contrôler. Nous avons aussi renoncé aux représentations où il y a un nombre trop important de choristes ou de figurants. Enfin, nous avons mis en place un système de code couleur pour les déplacements. Le rouge pour les artistes qui sont sur scène, l'orange pour ceux qui sont derrière la scène, etc. afin que les différents groupes de participants n'aient pas de contact trop rapproché.
Au total, 80 000 billets ont été mis en vente au lieu des 240 000 prévus.
La disparition de l'écrivain fou amoureux du Brésil, Gilles Lapouge, poète, géographe, flâneur invétéré, producteur de l'émission Agora sur notre chaîne. Gilles Lapouge est décédé hier à l'âge de 97 ans. La météo baisse des températures, sauf dans la vallée du Rhône, et des orages sur le massif central, l'est des Pyrénées et des Alpes jusqu'en Alsace. Ce journal a été préparé avec Nicolas Paumet à la technique, Adèle Caglar.